Le débat du jour. Romain Osoui.
Bonsoir à tous. On parle tennis ce soir dans le débat du jour. Aujourd'hui ont lieu, actuellement même, les demi-finales dames de Roland-Garros. Demain, ce sera au tour des messieurs. Ne cherchez pas de Français, il n'y en a plus depuis bien longtemps. Aucun d'entre eux n'était en effet présent au troisième tour, comme en 2021. Mais cette année particulièrement nous rappelle que la disette dure depuis longtemps, depuis trop longtemps, puisqu'on célèbre les 40 ans de la victoire de Yannick Noah et depuis aucun Français chez les hommes n'a remporté un tournoi du Grand Chelem. D'où notre question ce soir, tennis français, quel est le problème? La fédération est l'une des plus richement dotées, la France est le pays d'Europe qui compte le plus grand nombre de joueurs dans les classements mondiaux, mais au plus haut niveau, ceci marque le pas. Que faut-il changer? Qui sera le champion de demain? Soyez les bienvenus dans le débat du jour.
RFI.
Et pour répondre à ces questions, nos deux invités en ligne avec nous, Christophe Bernel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre, ancien 170e mondial de tennis, ancien responsable du pôle mental au sein de la Fédération française de tennis. Et vous venez de publier, en collaboration avec Arnaud Ramsey, le livre Nadal, Federer, Djokovic, 21 matchs pour entrer dans la tête de ces champions et pour booster votre mental. Notre deuxième invité est en direct de Roland-Garros avec les moyens techniques de notre envoyé spécial Eric Mamrut. Il s'agit de Franck Ramella, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes journaliste spécialisé tennis au quotidien sportif français. L'équipe, merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation du débat du jour et on entendra certainement l'ambiance de Roland-Garros tout au long de ce débat du jour. D'abord justement, Franck Ramella, vous qui couvrez toute l'année les circuits de tennis, quel bilan vous faites de ce Roland-Garros côté français?
Ah bah, là vous commencez tout de suite dans le dur, bah non, on ne peut pas s'en satisfaire évidemment.
Non, pas satisfaisant, quel bilan?
Ah bah le bilan est mauvais, mais le bilan était attendu en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu un vent de critique absolument dément, puisque ça dure depuis 3-4 ans. Il n'y a plus beaucoup d'espoir que les Français actuels aillent très très loin dans les tournois. Donc ça a confirmé la tendance. Les tirages au sort en plus n'étaient pas très très favorables. Et si on enlève les victoires de Français entre Français, il n'y a eu qu'une victoire ou deux chez les garçons. Donc voilà, on peut dire que c'est déplorable, mais on peut dire aussi que c'était hélas attendu.
Ouais, c'était attendu. Aucun Français dans les 30 premiers mondiaux aujourd'hui. Le premier Français, c'est Hugo Humbert, il est 40e. Alors côté française, il y a Garcia qui est 5e mondial. Caroline Garcia, c'est l'arbre qui cache sa forêt, je dirais. Parce qu'après, c'est Alizé Cornet, 61e, et c'est la seule dans le top 100. Voilà le tennis français aujourd'hui.
Alors, chez les filles, c'est vrai qu'il y a Garcia, mais c'est vrai qu'elle n'a plus beaucoup de résultats depuis quelques temps. Elle s'est embourbée toute seule, enfin toute seule non, elle s'est embourbée dans un mauvais feng shui, disons. Donc, elle cache un peu plus difficilement la forêt, mais c'est vrai qu'il y a encore moins d'espoir pour les filles, pour le moyen terme, disons.
Ah, pour vous, c'est encore plus... Alors qu'il y a Caroline Garcia qui est 5e mondiale, ça s'annonce encore plus compliqué pour les filles que pour les hommes aujourd'hui?
Pour l'avenir, après, ouais. Caroline Garcia peut parfaitement rebondir, elle a déjà fait, mais bon, elle a connu finalement les mêmes soucis, Christophe Bernel nous en parlera, un peu mentaux qu'elle avait déjà connu, ouais. Quand elle était déjà montée au sommet avant de redescendre, là elle a connu un peu les mêmes soucis de confiance et d'attente, donc on peut dire qu'elle a peut-être pas travaillé sur ces points-là puisqu'elle avait déjà échoué là-dedans. Elle peut repartir parce qu'évidemment elle a un jeu très bon, hein, qui l'a amené très haut, donc il n'y a pas de souci pour elle si elle arrive à rebondir, mais voilà quoi. Mais pour les autres, même les jeunes filles sont très loin.
Les résultats sont à la hauteur du classement des joueurs français aujourd'hui, a dit Gilles Moreton, le président de la Fédération française de tennis. C'est ce que dit en substance Franck Ramella, Christophe Bernel, vous qui étiez justement à la Fédération française de tennis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat?
Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'aurais envie de faire un rapide petit historique quand même du tennis français, parce que l'histoire, c'est toujours important. Puisqu'on a eu, au départ, on a eu une avance à l'époque de Philippe Chatrier. Donc, c'était dans les années 70. Il y a eu les premiers sports-études, là où Noah a été intégré à l'âge de 11 ans. Il est venu du Cameroun à 11 ans, c'était Patrice Beuse qui s'en occupait. Et ensuite, vers les 16-17 ans, il est allé à Roland-Garros. entraîné par Patrice Hagelauer. Enfin, ça a été vraiment le début de la structure des sports-études. Et c'est vrai que là, on a commencé à avoir de l'argent par Roland-Garros et on a structuré les choses. Et il y a eu quand même beaucoup de joueurs qui sont sortis. Et on avait un peu d'avance dans le monde entier. Et à l'époque, il y avait un peu moins de concurrence parce qu'à l'époque, les Russes ne jouaient pas, les Asiatiques non plus. Donc, la concurrence est devenue de plus en plus forte. Et nous, je pense qu'on est... On s'est un peu reposé sur nos lauriers. On disait même que voilà, on entendait souvent qu'il fallait, enfin les fédérations voulaient copier la fédération française, etc. Je pense qu'il y a eu un manque. Je pense qu'il faut toujours chercher à progresser. Les dirigeants, les entraîneurs doivent toujours chercher à progresser. Bien sûr, les joueurs. Et je pense qu'on a eu ce manque là. Et alors, c'est particulièrement criant dans le domaine qui est mon domaine, qui est le domaine mental, que je décris dans mon livre avec Arnaud Ramsay, hein, parce que les Nadal, Federer, Djokovic, ils ont une personnalité différente, mais ils ont travaillé cet aspect-là. Mmh. Et cet aspect-là, ils le disent tous, c'est ce qui fait la différence, parce que là, actuellement, les joueurs et les joueuses, ils sont super entraînés dans le monde entier, super entraînés tennistiquement, physiquement, et à un moment donné, ce qui fait la différence, c'est bien souvent le mental, et c'est en ce sens-là que je regrette qu'en France, on ne met pas les moyens dans ce domaine-là.
On va parler du mental, mais vous avez dit qu'on s'est reposé sur nos lauriers en France, donc on s'est plutôt reposé sur nos lauriers, ou est-ce qu'il y a cet aspect du mental qui n'a pas été travaillé? Qu'est-ce qui a été le premier constat?
Alors, si vous voulez, disons que ça n'a pas été pris en compte suffisamment, cet aspect mental. Alors, le mental au sens large, parce que le mental, c'est bien sûr ce qui se passe dans la tête du joueur et de la joueuse, mais il y a, ça c'est ce qu'on appelle l'intra-psychique, mais il y a l'inter-psychique, c'est-à-dire toutes les relations qui vont permettre au joueur de grandir, de s'épanouir dans sa vie qu'il a choisi de... tennisman professionnel, qui est une vie quand même très difficile, car il faut pas oublier que c'est 40 semaines par an. Chaque semaine, on part. C'est pas comme le football ou le basket où on reste dans sa ville et on fait un petit match de temps en temps, une ou deux fois par semaine. Le tennis, c'est très dur. Il faut avoir un entourage vraiment bien là et arriver à s'aérer l'esprit. C'est beaucoup plus difficile. Donc, en fait, on n'a pas assez pris en compte, ce domaine de l'épanouissement du joueur et de la joueuse et l'importance de garder le plaisir de jouer aussi, malgré toutes ces conditions. Le plaisir de jouer, c'est le rapport à l'enfance. On joue au tennis, il faut prendre du plaisir à jouer. Et si on est trop sur le résultat, je pense que c'est là où on pêche en France, on est beaucoup trop sur le résultat. Et moi, ça m'a beaucoup gêné d'entendre le DTN actuel.
Directeur technique national.
Voilà, le directeur Nicolas Escudé qui disait avant Roland-Garros, en parlant de nos deux espoirs qui ont 19 ans, là, Arthur Fils et Lucas Van Hach, avant le tournoi, il disait on ne va pas se contenter qu'ils passent un ou deux tours. Sous-entendu, il faudrait qu'ils soient en deuxième semaine. Et là, on est trop sur le résultat.
On met la charrue avant les bœufs.
Exactement.
Mais vous dites on a perdu ce plaisir. Ça veut dire qu'à un moment, ce plaisir était là, donc cet aspect mental que vous évoquez était présent.
Disons que au départ, si on remonte vraiment au début du professionnalisme dans les années 70-80, il y avait beaucoup plus d'insouciance, alors que là, maintenant, très vite, les jeunes, on leur demande d'avoir des résultats très jeunes et en France, on se polarise sur le classement très très vite. Enfin, on est aussi le pays où il y a le plus de classements et donc les joueurs se comparent et ils oublient que le plus important c'est de progresser son jeu, son tennis, son physique et son état d'esprit parce que toutes les pensées, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, c'est que toutes les pensées que l'on a avant de rentrer sur le court, elles vont conditionner la performance. Mmh. Si on rentre sur le court en disant « j'ai pas le droit de perdre », moi j'ai des souvenirs, par exemple, d'un souvenir d'un match de Tsonga à Roland-Garros, il jouait super bien, il bat Federer en quart de finale en 2013, et il se retrouve en demi-finale contre Ferrer. Bon, et ben, quelque part, ça paraît évident, il a complètement raté son match alors qu'il jouait super bien. C'est manifeste, il est pas rentré avec les bonnes pensées dans ce match. Et très vite, il s'est énervé dès qu'il s'est fait briquer. Voilà, il y a vraiment tout un travail à faire avant qui est fondamental et qui n'est pas toujours fait. Et si, alors ça, c'est juste la perte d'un match, mais on voit bien aussi qu'on peut arriver sur des choses beaucoup plus graves comme Lucas Pouille. A vécu une dépression. Caroline Garcia dit bien qu'elle a eu un mal-être avec de la boulimie qui l'ont vraiment beaucoup handicapée. Heureusement, elle a réussi à rebondir l'année dernière. Et même Hugo Humbert, qui est notre numéro un français actuel, a eu un passage difficile. Il a pu en parler aussi. Donc, on voit bien qu'il y a eu des manques. Il y a des manques au niveau de leur santé mentale, j'ai envie de dire aussi. Et la meilleure médecine, c'est la préventive. Il faut arriver à anticiper. Alors, et c'est là, voilà.
Quel travail à faire, ça, vous allez nous le dire, vous qui avez été responsable du pôle mental au sein de la Fédération française de tennis. Mais sur ce point-là, j'aimerais entendre l'avis de Franck Ramella, journaliste tennis à l'équipe. Est-ce que vous êtes d'accord, Franck Ramella, le mal du tennis français aujourd'hui, tu en as un mot, mental?
Bon, oui et non, parce que les autres athlètes connaissent également des soucis mentaux. Les autres athlètes sont également, dans les pays de l'Est, je pense, éduqués à la dure. Je ne pense pas qu'ils sourient tous les jours à l'entraînement et qu'on ne leur dit pas qu'il faut absolument gagner. Donc, que si on avait de son gars un Français qui se qualifiait pour la demi-finale de Roland-Garros, on ne peut pas parler d'échec non plus. Alors oui, ce problème est sur la table. Il commence à être travaillé. Il est déjà travaillé par les joueurs. Alors, est-ce qu'on dit toujours les Français n'ont pas de mental? Bon.
Est-ce que les Français travaillent leur mental? Est-ce que les Français travaillent moins leur mental que d'autres?
Certains oui, certains moins. Il y a d'autres soucis. Alors, celui-ci en fait partie, effectivement. Il y a le souci qu'effectivement, on s'est endormi sur les lauriers. On avait un bon système. C'est tout le problème des fédérations riches. On retrouve les mêmes problèmes en Angleterre, en Australie. On l'a longtemps connu aux États-Unis. Beaucoup d'argent. Donc
384 millions d'euros, le budget de la Fédération française de tennis.
Oui, donc peut-être des entraîneurs qui rechignent à partir très souvent. Alors, il y a des très bons entraîneurs, mais peut-être que pas de prise de risque en prenant des joueurs, disons en étant salarié, c'est différent que de jouer sa peau sur des tournées. Alors, il y a plein de petits soucis comme ça, alors qu'on a pourtant un excellent outil de travail avec le CNE. C'est une des places fortes du tennis mondial. Il y a tout ce qu'il faut en termes de récupération, d'entraînement, de cours connectés. Mais on constate que les joueurs n'y vont pas toujours spontanément. Donc, il y a une somme de petites choses. Mais effectivement, on entend souvent, est-ce que les joueurs ont très envie vie, se contentent de peu parce que finalement, voilà, est-ce qu'ils sont prêts à faire l'effort suprême? Bon, il y a tellement de choses qu'on finit par ne plus savoir. Alors effectivement, la partie mentale peut en faire partie.
Ouais. Peut-être qu'on aide trop les joueurs. Là, je cite encore Gilles Moreton, le président de la Fédération française de tennis. Christophe Bernel.
Alors oui. Alors, je crois que c'est important. Alors, j'ai été responsable, mais pas longtemps, 16 mois seulement. Et faut bien se rendre compte que j'ai été le premier, on va dire, responsable à temps plein, salarié à temps plein. Auparavant, avant moi, donc c'est le précédent DTN qui était Pierre Chéré, qui avait accepté de me mettre à temps plein dans l'équipe. Moi, ça me paraissait indispensable parce que j'avais eu des années avant un tout petit temps et je voyais bien il y avait un tel travail à faire, qu'il fallait que je sois à temps plein. Et auparavant, c'était des prestataires seulement. Hein. Donc, quand on décide de se séparer de moi, parce qu'il y a un travail énorme, moi en étant salarié temps plein, je pouvais faire des visios avec des entraîneurs et des jeunes qui étaient en Amérique du Sud le dimanche soir à minuit. Vous voyez, quand on est à temps plein, on est dans l'équipe. On peut travailler en équipe avec les entraîneurs, les joueurs, et on est là pour faire épanouir le joueur et la joueuse. Quand là, c'est ça qui était dommage, c'est que on se sépare de moi, à la limite, pourquoi pas, mais on reprend des prestataires. Alors que, si on m'avait dit, on prend un temps plein, on en prend même un deuxième temps plein, il faut savoir qu'il y a 11, il y a 16 entraîneurs tennis à la DTN, au CNE, il y a 16 entraîneurs tennis, il y a 8 entraîneurs mental, et actuellement, il y en a 0 à temps plein. Ouais. Pardon, j'ai dit physique, 8 physiques et 0 à temps plein mental.
Donc, mais l'entraîneur tennis ne travaille pas sur le mental?
Il connaît des choses, mais il ne connaît pas tout. Excusez-moi, c'est quand même un métier. Enfin, moi, je suis psychiatre, j'ai fait 6 années de médecine et 4-5 ans de spécialité. Enfin, l'entraîneur mental, il connaît des choses. Mais par exemple, Juan Carlos Ferrero.
Ouais, j'allais vous demander comment ça se passe à l'étranger.
Voilà, Juan Carlos Ferrero, Alcaraz, dans son académie, il y a un psychologue.
Donc ancien champion espagnol, vainqueur de Roland-Garros, actuellement entraîneur de Carlos Alcaraz, de numéro 1 mondial.
Exactement, qui a été numéro 1 mondial. Et Ferrero dit bien que c'est important pour lui, pour son épanouissement, par rapport à son vécu. Il l'entraîne depuis qu'il a 14 ans, il a maintenant 20 ans, et il veut que ça soit quelqu'un avant tout qui s'épanouisse, qui ait des résultats ou pas. Enfin,
ouais.
Vous voyez,
parce que ça rejoint. Ouais. Ça rejoint ce que vous disiez. Je voudrais entendre ce qu'il y a Franck Ramella qui souhaite réagir à ce que vous, oui. ce que vous dites. Et ça renvoie à ce que vous disiez au début sur effectivement l'importance de prendre du plaisir pour gagner en tennis. Franck Ramella.
Non, après, c'est qu'est-ce qu'une réussite ? Parce que là, alors le mental de Djokovic, oui, ou de Federer, ou de Nadal, ou de, peut-être Alcaraz maintenant, c'est le mental des super champions. Donc on part encore d'une autre base. Là, on parle de champions de tout, dans tous les domaines. Pour relativiser, parce qu'on parle d'échecs, on a quand même 11 Français dans le top 100. Donc le tennis est un sport mondial, pratiqué par plus que de centaines de millions de licenciés dans tous les pays. Avoir 11 Français dans le top 100, si on peut parler d'une certaine réussite. Alors effectivement,
oui,
on n'a pas
le champion. C'est la première nation en Europe d'ailleurs dans le top 100.
Et voilà, donc les États-Unis en ont 13, sinon il n'y a pas d'autres nations. Donc déjà, ces 11 Français qui sont dans le top 100, ils ont déjà un mental. C'est comme l'époque où on disait les mousquetaires, Gasquet, mon fils, ton gars n'ont pas de mental. Alors oui et non, parce que oui, ils ont un sacré mental pour être arrivés là où ils sont. Alors effectivement, est-ce qu'ils avaient le mental absolu dément des grands champions? Non. Est-ce qu'ils l'ont travaillé? Pas forcément, peut-être, mais bon, voilà, c'est où est-ce qu'on met la barre effectivement. Alors c'est souvent des
mais vous leur donnez des circonstances atténuantes. Est-ce que les Français se satisfont pas peut-être de cette carrière certes extraordinaire qu'ont pu avoir les, comme vous avez cité, Gaël Monfils, Geoffrey Tsonga, Gilles Simon, mais pas ou peu de finale de Grand Chelem, mais en tout cas pas de titre de Grand Chelem?
Parce que si vous regardez, il y en a eu très peu qui en ont eu dans cette époque. Hein. Voilà, c'est une banalité de le dire. Del Potro, Wawrinka, Murray, voilà. Après, on a fait le tour. Donc, il n'y a pas.
Parce qu'il y a ce. Alors, on précise pour les auditeurs qui ne sont pas les plus alertes en tennis, il y a ce qu'on appelle ce top 3, Federer, Nadal, Djokovic, qui, à eux trois, ont remporté 64 tournois du Grand Chelem.
22-20. Voilà. Mais alors, évidemment.
Mais avant eux, il y a eu aussi une phase après Noah 83 et avant ce top 3, il y a eu une phase où des Français auraient pu gagner des tournois du Grand Chelem.
Tout à fait, tout à fait. Non, mais là, après, voilà, sur la longueur, ça devient effectivement très problématique. Il y a plein de petites choses. Après, on parle souvent du travail des académies en France. Mais elles ne font pas beaucoup mieux en termes de résultats pour les joueurs français. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas forcément la faute. Elles trahissent le mental aussi, j'imagine, ou pas. Ça, je ne sais pas exactement. Mais ce n'est pas que la faute, disons, de la fédération. Je ne les défends pas du tout. Hein. C'est juste pour tenter des fois de relativiser. Et pour repartir sur une note un peu d'espoir, autant l'an dernier, il y a eu vraiment une grosse crise. Ils ont vraiment paniqué dans le tennis français au sommet parce qu'il n'y avait quasiment que des nuages noirs. Là, on a eu l'éclosion de deux jeunes qui, en termes de précocité, donc Lucas Vanhaché et Arthur Fils, qui sont dans le top 100 et qui donnent envie d'y croire pour au moins des résultats constants au plus haut niveau, ce qu'on n'avait pas l'an dernier, ni chez les filles, ni chez les garçons.
Ça, c'est les motifs d'espoir. Je voudrais entendre Christophe Bernel dans quelques instants, mais avant, puisqu'on va un petit peu continuer sur cet aspect mental charnière du tennis. Est-ce que la Fédération Française de Tennis est en train de changer son approche du tennis, justement, sur cet aspect du mental? Je propose d'écouter ce spot rapide de la Fédération Française de Tennis qui tourne actuellement à la télévision en cette période de Roland-Garros.
Hey, si c'est le jeu que tu cherches, c'est ici que ça se passe. En toi. Ici, on ne scrolle pas. On ne poste pas. On ne juge pas. On joue. Ici, il n'y a que la concentration qui compte. Il n'y a que la balle qui compte. Le mental est un muscle et le tennis est son sport.
Voilà, le mental est un muscle et le tennis est son sport. Christophe Bernel, c'est quoi? C'est uniquement de l'affichage ou c'est un tournant, puisque vous dites que c'est le point faible, le mental?
Malheureusement, je pense que c'est beaucoup d'affichage. Alors, par rapport aux joueurs français, moi, je n'ai jamais dit qu'ils n'avaient pas de mental. L'important, c'est d'arriver, d'avoir la sensation d'arriver à son plus haut niveau. Moi, je suis persuadé, bah, vous pourrez l'interviewer, mais qu'un de son gars, je dis, il pense qu'il aurait pu gagner un grand chelem, comme l'a fait Wawrinka trois fois, puisqu'il était du même niveau que Wawrinka. Donc, il s'est intéressé, il a dit, il s'est intéressé au mental qu'à 31 ans. De la même façon, un Simons s'est intéressé au mental que vers 26 ans. Un Gasquet, dans son dernier livre, il dit que oui, il aurait peut-être dû s'intéresser à la question au cours de sa carrière. Bon, histoire d'aller vraiment à son maximum. Si on a la sensation d'être allé à son maximum, c'est grâce au mental qu'on peut avoir cette sensation-là, qu'on peut avoir une certaine constance dans les résultats, parce que ce n'est pas toujours notre fort aussi, la constance. La constance, c'est du mental.
Mais justement, vous qui avez été, certes pas longtemps, vous l'avez dit, 16 mois, responsable du pôle mental au sein de la FFT, comment on entraîne son mental au tennis? S'inspirer de ce qui se fait ailleurs?
Alors, absolument. Alors, il y a Djokovic qui en a beaucoup parlé, puisque lui, il travaille son mental tous les jours, grâce à sa femme d'ailleurs, parce que bon, les trois, Nadal, Federer, Djokovic, l'entourage, et là je salue chacune de leurs femmes, parce que c'est important d'être bien entouré, pas uniquement l'entraîneur, mais voilà, être bien entouré. Et Djokovic, grâce à sa femme, il s'est mis à travailler sur lui-même, en yoga, en méditation, et il fait ça tous les jours, c'est dans sa routine, tous les matins il fait ça, et il fait ça vraiment en profondeur, en ce sens qu'il s'est rendu compte que ça lui faisait du bien, et que ça allait l'aider à devenir une meilleure personne. Et on voit bien qu'il a réussi à faire ce travail, parce que Djokovic, quand il avait 18-19 ans, dès qu'il était mené dans un match, il faisait semblant d'être blessé, il n'avait pas une bonne attitude. Et maintenant, on voit bien que même si ça lui arrive encore de s'énerver et d'avoir pas forcément toujours une attitude parfaite, il le reconnaît lui-même, mais il est beaucoup plus respectueux de l'adversaire. On l'a vu perdre et enlacer l'adversaire qui l'avait battu. Et on sent qu'il est en train de travailler pour s'épanouir et devenir une meilleure personne. Et ça, c'est un travail quotidien. C'est une question d'état d'esprit. Le mental, c'est une question d'état d'esprit. Hein, c'est très important. Donc, il y a ce travail qui est fait. Nadal, pareil. Nadal, il en parle moins, mais dans son équipe, notamment son physio et qui le considère un peu comme son frère. Et il y a cette thérapie, la part de la thérapie holistique, ça veut dire holistique, c'est le tout, c'est le lien entre le corps et l'esprit. On sait bien que le corps et l'esprit sont liés. Et pour lui, voilà, l'état d'esprit dans lequel il rentre dans un match, cette envie du combat. Et Nadal l'a souvent dit, moi je suis heureux quand je suis sur un court. Et il y a un combat qui va arriver, et si je gagne, tant mieux, mais voilà, il veut juste donner son meilleur, et c'est ça son objectif. Il ne se trompe pas d'objectif. Il se donne le droit de perdre au premier tour de Roland-Garros, Nadal.
Le débat du jour sur RFI. Romain Ozoui.
Tennis français, quel est le problème alors qu'actuellement a lieu la deuxième demi-finale dames? Il n'y a pas de français au troisième tour cette année, comme en 2021. Mes deux invités, Christophe Bernel, que l'on vient d'entendre, psychiatre, ancien 170e mondial de tennis et ancien responsable du pôle mental au sein de la Fédération française de tennis, et Franck Ramella, journaliste tennis au quotidien sportif L'Équipe, en direct de Roland-Garros. Franck Ramella, vous avez dit que fallait peut-être pas tout pointé sur le mental et que on est quand même
par
une.
Je rejoins parfaitement ce qu'a dit Christophe sur Djokovic chez les plus grands. Oui, bien sûr, c'est une part primordiale. Alors en France, effectivement, il n'y avait aucune prise de conscience. Là, maintenant, il y a quand même une prise de conscience avérée. Alors est-ce que le travail sera suffisant et suivi par les joueurs? C'est effectivement un autre problème.
Alors vous avez pointé ce budget qui est quand même assez faramineux de la Fédération française de tennis. En tout cas, c'est une des fédérations les plus richement dotées, 384 millions d'euros, que effectivement c'est la première nation européenne en termes de nombre de joueurs dans le top 100, masculin et féminin. Mais le premier français est Hugo Humbert, 40e. Pourquoi justement il n'y a pas un top 10? Pourquoi il n'y a pas plusieurs top 10, même dans les circuits masculins ou féminins?
Alors Hugo Humbert était 25e, très jeune, et il a eu une période un peu compliquée pour différentes raisons. Lucas Pouille, effectivement, était top 10, qui illustrait la succession de notre fameuse bande des mousquetaires. Donc il a eu des soucis. Bon, peut-être que lui aussi s'est mis en difficulté aussi. Bon, voilà. Donc il y a une transition difficile après ces années dorées du tennis français. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, deux jeunes espoirs qui émergent et qui donnent beaucoup d'espoir au tennis français.
Mmh. Arthur Fisch et Lucas Vanhaché. Mais quand, par exemple, Christophe Bernel évoquait le cas de Joey Fritsonga, qui pense que voilà, il était au même niveau qu'un Stan Wawrinka, qui a gagné deux tournois du Grand Chelem, vous en pensez quoi ?
Oui, c'est alors voilà, c'est Wawrinka illustre effectivement le petit gap qu'auraient pu franchir les Français. Alors, est-ce qu'ils étaient au maximum de leurs possibilités ? Ça, on peut en parler pendant des heures. On peut dire que Gilles Simon est quand même s'est approché pas très loin de son maximum. Enfin, après, c'est toujours très dur. Oui, effectivement, Richard Gasquet a, semble-t-il, payé le poids des attentes. Est-ce qu'effectivement, et s'il avait travaillé ça tout de suite, s'en serait-il exonéré ? C'est des questions qu'on peut se poser pendant lui-même, Richard Gasquet, confessant qu'il avait des limites tennistiques qui l'empêchaient d'aller au-delà, alors qu'il est quand même septième mondial. Donc c'est voilà, en France.
Oui, mais est-ce qu'on s'est arrêté à ce classement de septième mondial ? C'est intéressant le cas de Richard Gasquet parce qu'il y a ce côté Mozart du tennis. Est-ce qu'en France on va dire vous avez du talent, vous avez une belle main, et puis finalement on va délaisser tout le reste qui pourtant fait, comme l'a dit Christophe Bernel, les plus grands champions en citant Djokovic, Nadal ou Federer ?
Ah, il est clair que Richard Gasquet n'a pas du tout. Enfin, si, il avait quelqu'un qui avait travaillé un petit peu, mais puisque c'est moi qui avais un peu coécrit le livre avec lui à l'époque, il l'a dit. Bon, il n'écoutait pas en fait. Il ne croyait pas en cette aide-là. Donc ça peut être révélateur de ce que disait Christophe tout à l'heure. Ouais. Il faut y croire pour adhérer au projet. Et pour lui, la solution ne passait que, comme vous disiez tout à l'heure, par la voix de l'entraîneur qui est censé tout maîtriser, et qu'un entraîneur hyper compétent peut suffire. Alors qu'effectivement, est-ce que ça a suffi dans la carrière de Richard Gasquet ? On ne sait pas.
Christophe Bernel, parce qu'il est déjà presque 19h57, oui. Il nous reste deux minutes de débat. Oui. Est-ce qu'on peut se projeter sur l'avenir ? Ça vous inspire quoi, la nouvelle génération ? Parce que Franck Ramela, rapidement, allez-y. Rapidement.
Juste un petit mot sur ce que vient de dire Franck. C'est le problème aussi, c'est ça, c'est les entraîneurs. Là, on parlait de Gasquet, l'entraîneur. Et si l'entraîneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, Ferrero, l'entraîneur d'Alcaraz, il croit, et c'est lui qui l'a amené, qui a dit c'est important d'aller voir un psychologue. De la même façon, Roger Federer est allé voir un psychologue à 17 ans parce qu'il cassait pas mal de raquettes, et il est allé voir un psychologue pendant 3 ans et il est toujours resté un peu en contact, et c'est bien évidemment c'est les entraîneurs qui lui ont dit non mais là c'est important que tu y ailles. Donc c'est sûr que l'entraîneur c'est la plaque tournante, et il faut c'est lui qui doit dire et faire comprendre à son joueur que voilà, il faut s'enrichir, il faut travailler dans tous les domaines, et que l'entraîneur, et très souvent en France l'entraîneur a peur de perdre sa
qui donne l'impulsion. Alors, est-ce que les deux petites pépites qu'on évoque là, 18 ans et 19 ans, Arthur Fisch et Lucas Vanhaché, ils sont entourés de cette cellule psychologique ?
Écoutez, moi là, je ne sais pas. Actuellement, je ne sais pas.
Est-ce que les conditions ont changé ?
Non, mais il faut espérer. Et après, il faut qu'ils soient, avec des bonnes personnes. Parce qu'une fois de plus, c'est un business. La préparation mentale est un business. Il y a plein de gens qui se considèrent coach de vie, préparateur mental, et qui ont zéro diplôme d'État. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est quand même mieux d'avoir un diplôme d'État, soit être médecin psychiatre comme moi, soit être psychologue avec un diplôme d'État. Parce qu'on peut avoir vraiment, on a une formation pour l'importance de l'épanouissement de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte. Pour, une fois de plus, la meilleure médecine, elle est préventive. Préventive. C'est ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a raté pour Lucas Pouille, pour aussi Caroline Garcia et un peu Hugo Humbert aussi, malheureusement.
Mais c'est, en tout cas, on vous a entendu, c'est bien un changement culturel que vous appelez dans le tennis français, changement plus nuancé du côté de Franck Ramela. Merci beaucoup à vous deux, Franck Ramela, qui était en direct de Roland-Garros avec les moyens techniques de RFI et de notre envoyé spécial Eric Membrut. Franck Ramela, journaliste tennis à l'équipe, Christophe Bernel, psychiatre, ex-170e mondial, ex-responsable du pôle mental au sein de la Fédération française de tennis. Je rappelle votre livre, Nadal, Federer, Djokovic, 21 matchs pour entrer dans la tête de ses champions et booster votre mental. Merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat, Laurent Philippot à sa réalisation, merci à la documentation de RFI, et rendez-vous sur le site internet pour réécouter, podcaster ce débat du jour. RFI Soir à suivre.